Radio Kapi.
Les informations, Jocelyne Moussaoupondé. Lac Tanganyika, dont la province portant le même nom, et rivière Semuluki, dans le territoire de Beni, face aux tragédies de naufrage. Les autorités rappelées à leurs responsabilités, gilets de sauvetage et ponts modernes exigés. Réunion réunie à Luanda pour leur 7e sommet. L'Union européenne et l'Union africaine veulent redéfinir leur partenariat en mettant l'accent sur la paix, le commerce, la transition verte et un multilatéralisme plus efficace. Le coordonnateur zone Est du PAM à Goma est notre invité. Pascal Diro va présenter la nouvelle approche Chakula Sokoni pour soutenir les ménages vulnérables à Masisi. Bonsoir à tous. Une embarcation transportant environ 50 passagers a chaviré sur le lac Tanganyika au large de la localité de Lusenda dans le territoire de Fizi. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Une vingtaine de passagers sont portés disparus et une importante quantité de marchandises a disparu dans les eaux. Les recherches menées par les pêcheurs sont en cours dans l'espoir de retrouver les corps de personnes disparues. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badinbanga, est joint par Jean Kassami.
Le territoire de Fizi est en deuil. Une embarcation dénommée Nilidjoua en provenance du territoire voisin d'Ouvira pour le village Kazimia dans le territoire de Fizi a connu un naufrage suite au vent violent qui a secoué l'embarcation sur le lac Tanganyika en secteur de Tanganyika, groupement de Bobunke Nord au village Lusenda. À bord, les différentes marchandises, les divers et 45 passagers. C'est après deux jours du drame que cette embarcation a été trouvé à Kabumbe, dans le même secteur, dans le même groupement, avec à bord toute le marchandise. Le bilan provisoire fait état de deux enfants retrouvés et morts. Les personnes à bord restent toujours introuvables. Et les équipes de pêcheurs, les services maritimes et les jeunes du littoral sont sensibilisés pour retrouver ces derniers. Les territoires de Fizi présentent ses condoléances le plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs.
Et puis, 5 personnes ont été sauvées dimanche après le chavirement d'une barque sur la rivière Semuluki à Kambo, dans les territoires de Beni et à 75 km de la ville de Beni au Nord Kivu. L'embarcation qui reliait Kassindi, Lubiria à Butembo a sombré à la suite d'une panne de moteur. Des pêcheurs ont secouru les rescapés. La société civile du groupement de Bassongora exige désormais des gilets de sauvetage sur toutes les barques et appelle le gouvernement a réalisé la promesse de construire un pont moderne sur la rivière Semuliki. Son rapporteur, Paul Zaidi, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Il y a eu des pannes géantes sur le plan technique qui ont fait à ce que les bacs ne puissent pas avoir la possibilité de franchir de l'autre côté. Alors, nous exigeons à ce que les responsables de ces bacs puissent disponibiliser à tous les passagers qui empruntent les bacs pour traverser la rivière Semuliki de porter les gilets de sauvetage. En tout cas, c'est une nécessité impérative par rapport aux enjeux des pannes techniques qui s'observent au niveau des 10 bacs. Parce qu'il n'y a pas longtemps, donc à l'intervalle de 2 mois, il y a 3 pannes géantes enregistrées au niveau des 10 bacs. Alors, imaginez-vous si ça devrait être le cas des enfants, également des femmes qui n'ont pas la capacité de nager. Vous voyez déjà les conséquences, on devrait nécessairement enregistrer des pertes en vies humaines. Mais également, nous rappelons aux autorités politico-administratives devraient nécessairement disponibiliser un pont moderne sur la rivière Semuliki. Nous voulons voir l'accomplissement de cette promesse.
La ville de Luanda, capitale de l'Angola, accueille du lundi 24 au mardi 25 novembre le 7e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. À travers cette rencontre de 2 jours, ces organisations internationales entendent redéfinir leur coopération dans des domaines stratégiques tels que la paix, le commerce, la santé et le multilatéralisme. Ce forum s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de leur partenariat. Plus de détails avec Blaise Ndonga Lamayanda.
placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace », ce sommet offre l'opportunité aux dirigeants de ces deux institutions de discuter de la paix et de la sécurité, de l'intégration économique, du commerce, de la transition verte, de la numérisation, des migrations, de la mobilité et du développement humain. Selon Antonio Costa, président du Conseil européen, ce forum de deux jours vise à faciliter la poursuite d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique robuste, équilibré et tourné vers l'avenir. Il assure que l'Union européenne reste un partenaire fiable et prévisible pour l'Afrique avant de déclarer, je cite, « Ensemble, nous pouvons relever les défis mondiaux et faire émerger des opportunités partagées ». Fin de citation. Ces propos d'Antonio Costa soulignent l'enjeu principal du sommet, à savoir transformer le partenariat traditionnel en un véritable partenariat stratégique et économique où l'Afrique n'est plus seulement bénéficiaire, mais également actrice à part entière. La sécurité reste un enjeu stratégique majeur avec des missions en cours dans plusieurs pays africains.
En Ituri, une vingtaine de déplacés du site de Kigonze à Bunia sont détenus depuis au moins une semaine à l'état-major des FRDC à Tséré, dans la périphérie de la ville. Ils ont été arrêtés lors d'une perquisition menée par l'armée pour identifier des suspects qui se cacheraient dans ce site des déplacés. Selon des sources locales, cette opération a créé un climat de méfiance entre l'armée et les déplacés, dont plusieurs préfèrent désormais passer la nuit en dehors du site. Le président de l'association culturelle INTE dénonce la désinformation visant les déplacés et les arrestations arbitraires qui attisent les tensions et compromettent les efforts de paix. Isaac Remoyope nous fait le point.
Au total, 43 déplacés, dont des enfants, ont été arrêtés il y a une semaine lors d'une opération de perquisition effectuée par les FARDC après l'arrestation d'un présumé milicien de la CRPD, Thomas Lubanga, surpris à l'intérieur du site. Une vingtaine d'entre eux ont été progressivement libérés, faute de preuves de leur implication ou des liens avec les groupes armés. Mais 23 restent toujours en détention, malgré les nombreux plaidoyers pour leur libération. Selon certaines sources humanitaires, les conditions de détention sont déplorables. Certains auraient passé des nuits sans manger, privés de soins, et d'autres auraient été flagellés. Pendant ce temps, au site de Kigonze, situé dans les quartiers Nuzipela, les déplacés disent être menacés par des militaires qui patrouillent autour du camp. L'un d'eux affirme avoir été dépouillé de sa moto samedi dernier. La tension est vive. Plusieurs jeunes déplacés choisissent désormais de passer la nuit dans les entités environnantes par crainte d'être arrêtés. De son côté, l'association INTE dénonce la désinformation et les arrestations arbitraires qui exacerbent l'insécurité autour du site. Elle demande un renforcement de la sécurité par la MONUSCO, l'identification claire des déplacés et une campagne de sensibilisation pour apaiser les tensions entre les deux parties. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans la province du Tanganyika, les habitants du village Moussebe, au territoire de Manono, décrit les tracasseries des présumés Wazalendo. Ces derniers sont accusés d'exiger de l'argent aux opérateurs économiques et d'ériger des barrières pour rançonner la population. Dans une déclaration ce lundi, quelques habitants de Moussebe en appellent à l'intervention des autorités pour faire cesser ces pratiques illégales. Paulin Munanga nous en parle.
Ces présumés Wazalendo distribuent des jetons à chaque commerçant. Sur certains jetons que nous avons consultés, il y a le nom exact du mouvement qui exige cet argent. C'est la Coalition du Peuple pour la Souveraineté du Congo, CNPCS en sigle. Et sur certains de ces jetons, il y a le nom de celui qui verse l'argent, la durée de validité du jeton, la date de délivrance et le nom du percepteur. Il est aussi signalé que le jeton est sans valeur s'il est raturé ou surchargé. Les montants perçus que nous avons constatés varient entre 7000 francs congolais et 25000 francs. Pour les habitants du village Moussebe, il s'agit de la tracasserie. L'un d'eux s'exprime. Ils imposent un jeton et le motif qu'ils avancent, c'est l'effort de guerre pour acheter les munitions, les médicaments pour soigner les blessés et d'autres personnes. Nous ne refusons pas de les aider, mais le montant qu'ils exigent de payer est exorbitant. En plus de cela, l'effort de guerre ne peut pas être obligatoire. C'est la volonté de tout un chacun. L'administrateur assistant du territoire de Nyunzu que nous avons contacté dit avoir appris aussi cette information. Sabin Sabiti promet de vérifier ces allégations. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
De l'est de la RDC, allons à l'ouest, précisément à Matadi, où certains coins du quartier Mpozo manquent cruellement d'eau potable. Et cette situation dure depuis plus d'une année. À la base, des difficultés liées au pompage d'eau, explique la régie des eaux. À ce calvaire vient s'ajouter la surfacturation de la part de cette entreprise de distribution d'eau. Ces habitants qui souffrent pour avoir l'eau potable dénoncent cette situation devenue insoutenable et appellent à l'implication des députés de Matadi pour mettre un terme au délestage, dont la desserte en eau potable qui les secoue. Nana Purichmambo pour le reportage.
Ces avenues secouées par ces manques d'eau potable sont notamment Matadi Mankela, Kimbauka et Nsumbi au quartier Mpozo, communément appelé 6 à 6 dans la commune de Mvuzi. Sur place, plusieurs ménages affirment que cette denrée vitale devient un luxe car elle jaillit rarement au robinet. Ces habitants sont aussi exacerbés par une facturation qu'ils qualifient d'incompréhensible de la part de la régie des eaux. Témoignage.
Nous sommes à proximité de l'usine de la régie des eaux, mais nous ne bénéficions de l'eau qu'une fois la semaine. Si nous partons demander l'eau à l'usine, on nous fait passer plusieurs heures avant de nous servir. Nous sollicitons la compassion des autorités face à cette situation. Mais aussi, les factures que la régie des eaux nous envoie sont très colossales. Les chefs du quartier Mpozo que nous avons contactés proposent à la régie des eaux l'installation des citernes mobiles et la réparation rapide des conduites défectueuses. Du côté de la régie des eaux, son directeur régional affirme que l'eau pompée depuis l'usine atteint difficilement ses avenues en manque d'eau potable car se situant sur une zone montagneuse. Concernant la facturation, Théodore Kabea indique que chaque abonné paye selon sa consommation. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Le projet d'électrification des hôpitaux et centres de santé périphériques de la ville de Kindu se poursuit après le bloc opératoire moderne de l'hôpital général de référence de Kindu. Le week-end a été le tour du centre de santé de Basoko. Ce centre a bénéficié des panneaux solaires de 1000 watts et d'une batterie d'une puissance de 1500 ampères ainsi que de l'installation complète. Pour l'initiateur de ce projet, le sénateur Salomon Idi Kalonda, l'objectif est d'améliorer les conditions de prise en charge de malades. Un projet qui vise plus de 5 structures sanitaires de Kindu et des environs. Florence Kizalunga, reportage. Dans la province d'Imanima et plus particulièrement dans la ville de Kindu et ses environs, les conditions de prise en charge des malades et surtout la nuit posent problème. La plupart des hôpitaux et centres de santé utilisent des lampes torches, voire même des téléphones pour soigner les malades et diriger même les accouchements. Au centre de santé de Basoko, pour éviter tout désagrément pendant les consultations prénatales, il a été demandé à chaque femme enceinte, lorsqu'elle vient au centre pour accoucher, de venir avec sa torche et des piles. Voir ces centres aujourd'hui doté d'un kit solaire, sa responsable a eu de mots justes pour remercier son bienfaiteur Salomon. Jacqueline Ndoromo.
Aujourd'hui, c'était une surprise agréable pour l'aire de santé tout entière de Basoko. Dans le sens que on vient de nous doter un kit solaire qui va nous permettre de bien soigner nos malades. Et ici, chez nous, la nuit, on travaillait, on dirigeait même les accouchements avec des torches. C'est pourquoi on sensibilisait les mamans à la CPN de venir avec même des piles pour que ça nous aide. Dans le sens que les téléphones que les accoucheuses utilisaient, ça s'éteignait au cours de l'accouchement. Cette fois-ci, avec ce kit solaire, ça va améliorer notre façon de travailler.
Rappelons que bien avant cette dotation, Salomon a aussi doté ces mêmes centres de matelas pour avoir trouvé un malade dormir sur une natte. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. À l'approche des fêtes de fin d'année, le ministre des Droits humains s'est fait l'avocat des ouvriers. Dans une déclaration parvenue ce lundi à Radio Okapi, Samuel Mbemba recommande aux employeurs de payer en temps utile les salaires et avantages des employés. Il est persuadé que cela leur permettra de célébrer les fêtes de nativité et de la Saint-Sylvestre dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité humaine, conformément au Code congolais du travail, notamment son article 7, aligné. Suivez ici un extrait de la déclaration de Samuel Mbemba proposée par Blaise Ndongala.
À l'approche des festivités de Noël et de Nouvel An, je recommande à chaque employeur de prendre les dispositions nécessaires pour payer en temps utile les salaires et tous les avantages auxquels les travailleurs ont droit à la fin de l'année afin de permettre à ceux-ci de fêter dans le respect de leurs droits fondamentaux et la dignité humaine. Conformément au Code congolais du travail, spécialement en son article 7H, le travailleur congolais a droit à la rémunération. Au regard de l'article 99 du dit code, il y a lieu de rappeler que le paiement de la rémunération doit être effectué à des intervalles réguliers n'excédant pas un mois. À cet effet, il est recommandé aux employeurs de payer leurs travailleurs en temps utile toutes ces sommes.
Le ministre des Droits humains a par ailleurs annoncé que dès le 6 janvier prochain, il recevra chaque mardi de la semaine les travailleurs congolais ayant des réclamations sur la violation de leurs droits.
Actualité internationale.
Mort de Jimmy Cliff, monument de la musique jamaïcaine depuis plus d'un demi-siècle. Le chanteur Jimmy Cliff est mort ce lundi à l'âge de 81 ans. S'il a fait danser la planète et a traversé les générations avec Reggae Night ou Hakuna Matata, il a joué en Afrique un rôle à la fois pionnier et dans la durée pour y faire reconnaître le genre musical qu'il avait embrassé, soulignant sa dimension sociopolitique. Tout au long de sa carrière, cet artiste voyageur a développé des relations aussi solides que profondes avec le continent africain.
L'invité.
Notre invité est le chef de bureau et coordonnateur zone Est du PAM, basé à Goma. Pascal Diro explique la nouvelle approche Chakula Sokoni en faveur des ménages vulnérables dans le territoire de Masisi. Sa mise en œuvre, son impact, les défis et perspectives, il répond aux questions de Denise Loukesso.
Monsieur Pascal Diro, bonjour.
Bonjour madame.
Pouvez-vous d'abord présenter brièvement c'est quoi ce projet Chakula Sokoni?
Chakula Sokoni en réalité c'est une modalité d'assistance, une façon d'assister la population. Vous savez le PAM évolue dans un domaine spécifique qui est la sécurité alimentaire. L'idée pour nous c'est d'être toujours proche et auprès des populations vulnérables. Alors, il s'agit d'une innovation dans la zone. Habituellement, c'est des vivres qu'on distribue aujourd'hui. On va distribuer des vivres, mais pas directement. Donc, on va permettre à d'autres entités de la société d'intervenir dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, ici, on va parler des commerçants avec qui le PAM va avoir des contrats. Le contrat dira que les commerçants vont mettre à disposition des bénéficiaires les quantités de vivres nécessaires à leur alimentation.
Et pourquoi le PAM a choisi la zone de Masisi comme zone prioritaire de cette nouvelle approche?
Plusieurs raisons. C'est d'abord les zones beaucoup plus en insécurité alimentaire selon nos analyses, nos études que nous faisons. Et aussi à cause des difficultés d'accès. Vous savez que pour envoyer des stocks de vivres, il faut que les routes le permettent. Donc quand on prend toutes ces contraintes-là, alors on identifie des zones en toute neutralité, en toute impartialité. Donc ce sera des zones qui sont vraiment plus dans le besoin et dont l'accès pour le PAM est un peu plus difficile.
Et comment fonctionnent concrètement ces mécanismes sur les terrains?
Avec cette nouvelle modalité, le bénéficiaire aura maintenant d'autres choix. Le PAM a l'habitude de donner un certain nombre de denrées alimentaires de base, mais ici on a toute une liste de produits que le PAM va donner à ses différents bénéficiaires.
Qui sont ces bénéficiaires et quels sont les critères que vous utilisez pour identifier les ménages bénéficiaires?
C'est le critère de vulnérabilité. En réalité, on peut assister tout le monde, mais quand on n'a pas beaucoup de ressources, à qui on devrait donner? Et on a ces listes de personnes les plus vulnérables. Donc, ce seront les femmes, les personnes âgées, les enfants, les femmes allaitantes, etc., etc.
Combien de bénéficiaires qui sont identifiés?
Bon, en fonction des ressources que nous avons, on a planifié pour 5 000 ménages, donc qui fait en moyenne 30 000 personnes qu'on assiste. Et là, avec les ressources que nous avons, on s'est dit qu'on pourra couvrir au moins 3 mois de besoins alimentaires de ces personnes-là.
Comment s'est fait cette collaboration avec les commerçants sur le terrain?
Cette modalité-là est pratiquement une innovation. C'est une façon pour le PAM aussi d'impacter l'économie locale, mais de l'impacter positivement. Alors, les commerçants sont un des acteurs clés du marché local. On va discuter avec eux pour voir d'abord leur capacité. Est-ce qu'ils ont cette capacité d'acheter des vivres et venir les mettre à disposition des bénéficiaires? Donc, si on a dit qu'à telle date, des vivres doivent être à disposition, il faut que les commerçants soient capables de le faire. Et donc, en le faisant, c'est une façon aussi pour nous d'augmenter la demande de produits locaux. On va créer un marché. Donc, les producteurs locaux de ces produits-là pourront avoir plus de marché pour vendre aux commerçants qui eux vont mettre à la disposition. Donc vous voyez un peu comme un cercle vicieux de l'économie. On va attirer plus de production et le PAM se positionne comme un acheteur et met à la disposition des populations les plus vulnérables.
Et quel type de denrées ou de produits alimentaires?
On a du riz, la farine de maïs, les spaghettis, les haricots, les poissons, les tomates, les œufs, l'oignon, l'huile végétale et les arachides. En fait, c'est tout ce que justement les personnes mangent dans leur maison.
3 mois après, quel est l'impact de ces projets déjà sur le terrain?
L'impact, j'allais dire d'abord, c'est le sourire justement qu'on observe sur le visage de ces bénéficiaires-là. Cette façon de donner l'assistance augmente la dignité de ces bénéficiaires. Avant, ils avaient juste un nombre limité de vivre. Maintenant, ils ont le choix. Et aussi d'avoir des produits de leur terroir. Maintenant, pour les commerçants, c'est une opportunité de se faire aussi de l'argent. Et quand ils auront cet argent, ils pourront beaucoup plus acheter des produits localement. Et ça augmente la demande de produits et donc ça motive les producteurs à produire davantage.
Massissi, c'était une zone pilote. Et y a-t-il une perspective d'étendre cette approche dans d'autres zones, dans le Nord Kivu, dans d'autres provinces de la RDC?
Oui, effectivement, c'est l'ambition du PAM. Notre focus, c'est nos bénéficiaires les plus vulnérables. Là où ils sont, on sera bien obligé d'y être. Et donc, en termes de perspective, ça dépend toujours des niveaux de ressources que nous sommes en train de chercher à mobiliser pour l'instant. On pense que si on a plus de ressources, on pourra aller vers d'autres horizons.
Monsieur Pascal Diro, Radio Capi, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir également suivi ce journal qui prend fin. Il a été coordonné par Poli Mouzalia et Lévine Mbuinga. Dieudonné Nyangassa, la mise en onde. Merci de nous réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.